France Musique.
Tout le jour, toute la nuit, rien que toi, toujours, toujours, j'en suis ébloui. Que tu sois au loin, qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô mon amour, nuit et jour.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris, 17 rue de l'Arcade. Deux invités sont venus me rejoindre pour une émission qui sera en effet un peu raccourcie, mais on va synthétiser tout ce qu'on a à dire autour d'un côté de Debussy et de Szymanowski. C'est avec Cathy Krier qui nous donne un disque qui leur est consacré. Puis en deuxième partie de programme avec Eric Huchet, on évoquera Janáček et une certaine Katia Kabanova. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classique Club. L'arme, extrait du cycle de Leo Janáček par les sentiers broussailleux, joué par Cathy Krier. C'était extrait de son intégrale, Janáček, paru il y a 4 ans, 5 ans, quelque chose dans ce goût-là. Bonsoir Cathy.
Bonsoir.
On avait parlé de ce recueil à cette époque quand le disque était sorti, qui était une merveille, ce disque-là. C'est une musique, il faut dire, elle est tordante, elle vous prend. Je veux dire, c'est immédiat, non?
Je ne sais pas si c'est immédiat, mais... Je pense qu'il y a vraiment une émotion qui émane, et soit on aime ou on n'aime pas. Ça, ouais. C'est immédiat, ça c'est sûr.
Ah oui. Ouais. Mais on peut pas ne pas aimer Janáček quand même, surtout cette musique-là.
Moi, je l'aime beaucoup.
Enfin, j'imagine, si vous le faites en intégrale.
Bah voilà.
C'était difficile d'ailleurs d'aller vers toutes les pièces. Parce que moi, j'ai l'impression, quand on regarde les partitions de Janáček, que c'est comme un peu compliqué, il y a des rythmes complexes, on n'y arrive pas tout de suite. Quoi. Mais une fois qu'on a compris, bah, finalement, on se dit que c'est une musique d'un grand naturel.
Oui, disons, de prime abord, c'est une musique quand même assez compliquée à apprendre, ouais. Et surtout que quand j'avais décidé de faire l'intégrale, je connaissais certaines pièces, mais j'étais pas consciente de combien de pièces il y avait vraiment, en fait. Et c'est pas très clair dans son répertoire ce qui existe vraiment, donc il a vraiment dû chercher ce qui existait vraiment, et ça a pris un certain temps aussi de trouver les choses.
Ah ouais, c'est un auteur vers lequel il faut vouloir aller, Jana Tchèque. Voilà. Je salue, c'est pas pour rien qu'on a commencé cette émission avec ce disque presque ancien. Je salue donc à ma gauche Éric Huchet, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, il se trouve que vous ferez Jana Tchèque dans quelques jours, ce dimanche à Nancy.
Dimanche, Katia, première de Katia Kabanova.
Voilà, c'est ça. C'est difficile justement d'entrer dans cette musique-là, et d'abord dans la langue, parce que vous, en plus, il faut restituer le tchèque. Hein.
C'est pas facile, n'est-ce mon pas bon monsieur. Non, c'est vrai que c'est une langue qui est difficile, qui a l'avantage par rapport au russe d'être déchiffrable par un non-lecteur de cyrillique, déjà. Ensuite, c'est peut-être une langue plus facile à apprendre que le français pour des étrangers, parce que quand on voit un son écrit, c'est le son qu'on doit dire. Bon, une fois qu'on a compris les E avec les accents qui se disent « yé », pas sans accent, qui se dit « etc. », une fois qu'on a compris ça, ça va. Donc, mais il faut déjà l'apprendre. Et ensuite, il faut rentrer dans cette langue. C'est une langue qui est assez facile à chanter parce qu'elle se place bien, là, c'est un point de vue technique, elle se place bien dans le moule vocal. C'est, ça, c'est agréable. Mais il faut rentrer dedans. Il faut rentrer dans la texte de ses partenaires. C'est assez compliqué. Et rentrer dans cette musique qui est pas si facile que ça, qui est un peu moins harmonique que ce qu'on vient d'entendre.
Ouais.
Les thèmes sont là partout, tout le temps. Il faut y aller.
On en parlera en deuxième partie de programme avec vous. Je note comme une idée ce texte qui est sous-jacent toujours. Jana Tchèque, à l'opéra, il n'est pas seulement sous-jacent, il est là. Il faut le prononcer, il faut le dire, il faut le chanter. Au piano, on a quand même l'impression toujours de quelque chose qui se parle aussi.
Très clairement, dans toutes ses recherches, son premier abord à la musique est toujours la langue parlée. Donc, dans tout son rythme, il faut partir de la langue tchèque.
Alors, on n'est pas là pour parler que Jana Tchèque, mais on va en profiter pour causer un peu de spectacle avec vous, Cathy, pianiste, et avant tout pianiste, et uniquement pianiste, sauf que, il y a quelques jours, vous étiez sur les planches pour être aussi comédienne pour un spectacle intitulé Funeral Blues.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce truc, et qu'est-ce que vous êtes allé faire sur ces planches-là?
Eh bien, oui, la dernière était hier au Théâtre de la Ville de Luxembourg. Ouais. C'est un projet qui a été mis en scène par Olivier Fretsch. Ouais. Avec Laurent Nahori et Richard Clothier.
L'un qu'on connaît très bien comme chanteur, Laurent, voilà. Bien sûr, et l'autre qui est comédien.
Comédien anglais. Et en fait, c'est une histoire qui retrace la relation entre Benjamin Britten et Auden. Benjamin Britten a mis en musique les textes de Auden. Ouais. Et il y a cette idée qu'il y ait eu une histoire entre eux, mais on ne sait pas vraiment. Et donc, c'est à travers des poèmes d'Auden et de la musique de Britten que cette histoire est mise en scène.
Et alors, je disais, vous avez été... Alors, vous ne le saviez pas au départ, parce qu'un mois avant le début du spectacle, en fait, vous y alliez pour faire du piano.
Je savais que que j'allais avoir du texte, et on m'avait demandé si ça me dérangerait. Moi, j'ai dit, mais non, naturellement pas. Et il s'est avéré qu'il y avait quand même vraiment plus de texte que ce que j'avais pensé. Ouais. Oui.
Et qu'il fallait en plus jouer sur scène, carrément.
Il fallait carrément jouer sur scène un personnage de burlesque, en plus. Disons que le premier costume que j'ai mis, j'étais un petit peu bouche bée. Pour le premier costume de ma vie, j'ai fait fort.
Pourquoi?
Ben, c'est un costume de burlesque, quoi.
Ah, d'accord. C'est ça qui est un petit peu exubérant,
oui,
c'est ça.
Voilà,
c'est,
ouais. Oui.
Et puis vous étiez sur scène, du coup, pendant 1h10, c'est ça, tantôt à jouer du piano et tantôt à jouer la comédie.
Voilà, oui.
Ben, c'est une sacrée expérience, ça, non?
Oui, c'est au début très terrifiant.
Oui, j'imagine.
Surtout que tout de suite être sur scène avec des partenaires comme ça, ça fait monter un petit peu la pression, ils ont été adorables.
C'est pas n'importe qui, les deux. Hein.
Non. Ils ont été adorables.
Ils vous ont bien cassé ou ils vous ont un peu aidé?
Non, pas du tout. Laurent me faisait travailler mon texte tous les jours. Ah. Il a été très très gentil, et Richard aussi. Ouais. Parce que je parle très bien anglais, mais de là à déclamer des textes comme ça, c'est quand même une autre affaire. Donc oui, ça a été une expérience très enrichissante. Et assez unique.
Très bien. À voir donc Funeral Blues. Ce sera repris en France, mais l'année prochaine, en 2019, au Théâtre des Bouffes du Nord.
Voilà, c'est en coproduction avec les Bouffes du Nord et le Théâtre de Caen.
Ah ouais, on aura peut-être l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Il faudrait nous en parler avec Laurent Nahori. On ne sait jamais pour nous dire un peu ce qui se passe là-dedans. Bon, votre dernier disque, Cathy, c'est pour ça que vous êtes venue aujourd'hui. Il est consacré à Chimanowski et à Claude Debussy.
Thank you.
cloche à travers les feuilles qui ouvre le deuxième livre des images de Claude Debussy joué par Cathy Creer sur son dernier disque qui vient de paraître sur le label Avi. C'est un disque donc qui réunit les œuvres de Debussy et Chimanowski avant de voir ce qu'il y a entre les deux, parce qu'il y a évidemment plein de choses. Sur ces images, vous avez enregistré ici les deux volumes d'images, Cathy Creer, qui sont des œuvres incroyablement évocatrices et pianistiquement très différentes. En fait, si on compare l'hommage à Rameau, mouvement du premier livre et ce qu'on vient d'entendre, c'est des choses qui exploitent des potentialités du piano qui sont très très différentes.
Oui, on voit vraiment qu'il y a quelques années qui se sont passées entre les deux livres. Ouais. Et c'est sûr que le deuxième volet est encore beaucoup plus évocateur, à mon sens, que le premier. Bon, Reflet dans l'eau reste une pièce qui fluidifie la matière qu'on n'a pas eue auparavant. Mais le deuxième livre est encore beaucoup plus évocateur et peut-être même un peu plus subtil que le premier.
Ouais, avec des titres aussi, et puis même des atmosphères qui évoquent déjà les préludes, hein, certains des préludes.
Voilà, clairement, oui.
Enfin, qui sont, je dis déjà, mais c'est composé après, en fait. Ah, oui, non, en même temps, c'est
ouais,
ça.
Oui, plus ou moins en même temps, oui. Les préludes, c'est quand premier, même...
Oui, sur plusieurs années espacé. En plus, absolument. Masque, alors c'est le titre d'un cycle de Karol Szymanowski que vous enregistrez ici. Vous en avez profité pour mettre, ça donne en quelque sorte aussi le titre à votre oui. disque, hein. D'autres masques de Claude Debussy, une pièce que je ne connaissais même pas.
Oui, en fait, c'est un clin d'œil que, plus ou moins à la même époque, il n'y a que 10 ans qui séparent ses œuvres. Il y a Szymanowski, où on dit toujours que c'est l'impressionniste polonais qui écrit un cycle... Masque, qui est quand même d'une énorme envergure et aussi pianistiquement assez redoutable. Et Claude Debussy, qui écrit Masque, qui est une petite pièce de 3 minutes 50, avec le même titre et un univers tellement différent.
Et oui. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux, Debussy, Szymanowski? Peut-être une forme d'influence, parce qu'on sait que Szymanowski était à l'écoute de tout un tas de choses, de toutes les musiques européennes, en fait, de son temps. Oui. C'est certainement celui qui avait les oreilles les plus ouvertes à cette époque-là, et entre autres, ouvertes sur Debussy. Hein.
Oui, je pense que c'est faux de dire que... On dit souvent que Szymanowski est impressionniste. Je ne suis pas très certaine de ça, pour être honnête, mais ce qui relie les deux compositeurs, à mon sens, c'est ce pouvoir d'évocation, en fait. Ouais. Et aussi, Szymanowski, dans Masque, ce sont des histoires qu'il raconte, oui. C'est évocateur. Et c'est ça qui le relie, à mon sens.
Ouais. Alors que Debussy, lui, raconte jamais rien. Vous dites bien, dans Del Masque de Szymanowski, on a vraiment l'impression d'une histoire. On écoutera dans quelques instants Scheherazade. C'est pas pour rien qu'il nous rappelle cette histoire de conte qui est racontée au fil de nuit et de nuit entière. C'est comme si, finalement, les différents personnages et ce qui leur arrive étaient en train d'être décrits musicalement.
Oui, je pense que Szymanowski raconte vraiment une histoire. C'est presque une musique de programme, si on veut, alors que Debussy dépeint une atmosphère.
Mais c'est ça. Donc ça fait des choses très différentes entre eux.
Quand même.
Mais avec des effets de langage, quand même, qu'on retrouve de l'un sur l'autre, hein, peut-être. Hein. Des pièces très attachantes, Sérénade de Don Juan, qu'on a dans ces masques, ou Tantris le Bouffon. C'est qui Tantris le Bouffon, vous savez? Non, c'est un personnage imaginaire, on ne sait pas d'où il vient.
C'est Tristan et Iseult. Hein.
Ah, je n'ai pas fait le rapprochement, quel idiot. Ah oui, il y a une citation de Wagner au milieu par hasard? Non, même pas.
Non, c'est l'histoire païenne, cette histoire-là. Ça n'a rien à voir avec Wagner.
D'accord, oui, c'est le Tristan originaire.
Voilà, c'est le Tristan originaire.
Bon, et puis on va écouter donc ici un extrait de Scheherazade. On écoutera la fin de cette pièce tout à fait étonnante de Karol Szymanowski.
Thank you.
Cathy Krier au piano dans les dernières mesures de Scheherazade qui ouvre les masques, l'opus 34 de Karol Szymanowski, musique qui finit dans le rêve, mais qui a quand même quelque chose d'inquiétant toujours, hein, Cathy.
Oui, on n'est jamais à l'abri de la prochaine surprise.
Oui.
Et ce que j'adore dans cette musique, c'est qu'il y a des moments où on est vraiment dans un impressionnisme magnifique, et puis je ne sais pas ce qui se passe, et on se retrouve chez Scriabine... en clignement d'œil, donc ça c'est assez impressionnant, je pense.
Ouais. C'est une musique sur laquelle vous me disiez, pendant qu'on l'écoutait, il y a des indications, des annotations, tout ce qu'on veut, quoi. C'est noir.
C'est noir. Déjà, c'est écrit sur minimum 3 portées.
Ah oui. Et minimum, c'est-à-dire qu'il y en a 4 aussi.
Oui, oui. Ah, ouais. Et c'est noir. C'est noir d'indications, vraiment. Il y a sur chaque portée, il y a des crescendo, des diminuendo, des retardando, des accelerando. Ah ouais. C'est noir, noir, noir.
Ouais. Et c'est faisable ou c'est de l'obsession ou de la névrose de compositeur?
Je pense que...
Un peu des deux.
À la première lecture, c'est de la névrose.
Voilà,
et après, quand on a intégré la musique, on comprend parce que c'est vraiment... Le langage.
Mmh. Et pour rentrer dans la névrose du bonhomme.
Voilà.
Ben, c'est une bonne névrose qui nous permet de faire de la belle musique. Debussy, Szymanowski, c'est donc le dernier disque de Cathy Krier. Il est paru il y a quelques semaines sur le label Avi.
Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
On va revenir avec Léos Janáček pour parler bien sûr de Katia Kabanova, pour parler peut-être aussi des histoires d'influence, parce que toujours quand on parle de Szymanowski, on évoque bien sûr tous les différents compositeurs qu'il a entendus, qu'il est allé voir, qu'il a découvert. C'était le cas d'Janáček aussi, hein, Eric Huchet, il avait les oreilles grandes ouvertes lui aussi. Hein.
Absolument, absolument. Ce que je disais tout à l'heure, enfin ce qu'on disait en off, on retrouve Debussy aussi dans Janáček,
ouais.
et on retrouve toute la musique populaire de l'Est. Même de l'Est de la Tchécoslovaquie. C'est-à-dire vraiment, il s'est nourri de toute la musique populaire russe, de la littérature russe qu'il a ramené dans Katia Kabanova, puisque le livret est en fait une pièce de théâtre de Ostrovski, L'Orage. Et donc, c'est quelque chose dont il s'est nourri tout le temps, tout le temps.
Et ça, c'est étrange, là, parce que tous les compositeurs de la première partie du siècle, ceux qui ont la période de création, on va dire, entre la fin du 19e, la Première Guerre mondiale comprise, on a l'impression que les nationalismes sont très forts, que chacun a son langage. Et en même temps, on se rend compte, quand on regarde de près, que ça discutait énormément, que les partitions arrivaient comme à circuler, et qu'il y avait comme des regards des uns sur les autres.
Oui, d'un autre côté, jusqu'en 14, c'était quand même des minorités, tous ces nationalismes-là. Ils étaient quand même sous le joug de l'Empire austro-hongrois et de la Prusse. Et donc, c'était aussi peut-être un moyen de sortir
de s'ouvrir, de sortir
ce qu'il y avait de plus fort dans toutes les cultures populaires de l'Est de l'Europe. Quoi.
Il est 22h40 sur France Musique. On va écouter Eric Huchet dans un répertoire qui n'a rien à voir avec Léos Janáček. Ça fera rire un petit peu, ça rappellera surtout plein de beaux souvenirs. On se souvient des spectacles Peli Minkowski et dans la Grande Duchesse, c'est Eric qui était.
Le prince Paul s'en est allé, mais il paraît que rien ne presse, le mariage est reculé. Tous les jours qu'on paraît l'aurore, le prince Paul met des gants blancs. Est-ce qu'aujourd'hui qu'on pas entendre? Alors le prince ôte ses gants, le prince Paul a l'âme grande. Il souffre, mais il se tient droit. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande. Oui,
il faut toujours ajouter foi.
Voilà
ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la gazette de Hollande.
Oh, si ça vous fait rire. Le prince était tout feu, tout flamme, en arrivant à cette cour. Le prince était brûlant d'amour en arrivant près de sa dame. Il a tant brûlé qu'on suppose, après 6 mois de ce jeu-là, qu'il ne doit pas rester grand-chose de tout ce feu.
dont il brûla. Dans ta poche, mets ta demande, Prince Paul, et rentre chez toi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit de moi. Voilà ce que l'on dit dans la Gazette de Hollande. Oui,
il faut toujours ajouter foi.
Voilà,
il faut toujours ajouter foi. Il faut toujours dire dans la Gazette de Hollande.
Je vais m'abonner.
Méchante.
C'est un extrait de La Grande Duchesse de Gerold Stein, chanté par vous, Éric Huchet, ici dans le rôle de Paul. Et pour vous donner la réplique, il y avait l'irremplaçable Felicity Ludd dans cette version. Marc Minkowski au Théâtre du Châtelet, on se souvient tous de ça. C'était en 2005, me rappeliez-vous, à l'instant. Vous étiez aussi du spectacle de La Belle Hélène, qui était un autre, j'allais dire, Olivier Pelli, pardon, Pelli Minkowski, et qui était deux productions absolument incroyables.
Absolument.
Vous avez vécu aussi inoubliablement pour
vous. J'ai vécu ça. Ah oui. Pour moi, c'était une très belle période de création autour d'Offenbach. Oui, c'était magnifique.
De création. Felicity. Puis d'expressions individuelles aussi. C'est ça qui était incroyable dans ces spectacles. C'est qu'on sentait qu'il y avait une sorte de souffle collectif et en même temps des individus très fortement marqués là-dedans.
Oui. Mais c'était aussi le désir de Laurent et de Marc d'avoir les gens au bon endroit, le travail autour de la scène, autour des personnages qui étaient comme, mais ça c'est vraiment c'est ce qui marquait le travail de Laurent Pelli là-dessus. Ouais. Sur avec une, je dirais, une un arriéré de Savary.
Ouais.
Et voilà. Mm-hmm. Et puis en voulant renouveler les choses aussi d'une certaine manière, mais en fait en restant de l'Offenbach, oui, quelque part, et de l'amusement, mmh, avec de la grande qualité. Et sans oublier, dans ces deux spectacles, les chorégraphies de Laura Scozzi qui ont marqué, comme dans Platé, vraiment les spectacles aussi. Mmh. Qui étaient vraiment...
Katia Kabanova, donc, de Léos Janáček, ça se sera à partir de dimanche à l'Opéra de Lorraine, à Nancy, mmh, sous la direction de Marc Shanahan, mise en scène Philippe Himmelmann, et vous faites, Éric Luchet, pour la première fois, c'est d'ailleurs votre premier Janáček aussi, le rôle de Tichon, qu'on dit plus ou moins Tichon, chose comme ça, hein, qui est, pour le décrire, c'est le mari de Katia.
C'est le mari de Katia, c'est le fils de Kabanička Kabanova. Ouais. Qui est la veuve d'un grand marchand du village dans lequel habitent les Kabanov, qui est une mère acariâtre, possessive et abusive, ouais, qui ne supporte pas sa belle-fille, qui le dit ouvertement à son fils. Et le fils est une personnalité qui devrait reprendre le magasin du père, quelque part, mais qui est trop faible, qui est alcoolique, qui ne sait pas se placer dans cette société où l'amour est absent. Katia est quelqu'un qui en demande de tendresse et d'amour, sauf que en public et dans cette société-là, monsieur, ça n'existe pas, l'amour.
Ça s'exprime pas, en tout
cas. Ça ne s'exprime pas. Un homme doit battre sa femme, ouais, pour lui montrer le bon chemin. C'est comme ça qu'a été, entre guillemets, élevée la mère, qui a probablement aussi été battue par son ex-mari, feu son mari, et il n'y a pas de raison que la fille ne subisse pas, ou la belle-fille ne subisse pas le même sort. Donc il y a une jalousie de mère, une volonté de garder ce côté. Un mariage, c'est quelque chose d'arrangé, ce qui était le cas dans toute l'Europe au 19e, ouais, et encore très tard dans le 20e siècle.
Ouais. Mais là où le rôle est attachant de Tichon, c'est qu'il est quand même, comment dire, il aime quand même Katia, il lui pardonne beaucoup de choses, à la fin, il essaie de se rebeller, quoi, il est déchirant quelque part.
Il essaie, il voudrait lui pardonner, mais il est quand même, c'est quand même un personnage qui, effectivement, n'ose pas aller contre sa mère de toute façon. Mmh. Quelqu'un qui, c'est un personnage qui est castré par sa mère. Et oui, il voudrait, il y a un fond de révolte, mais chaque révolte est cassée par une action de la mère, est cassée par un regard, par un geste, traduit par Janáček, par de la musique, par un motif musical qui va casser. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui n'ira jamais au bout de sa vraie volonté, de sa volonté de. Et donc, d'aimer, et donc il boit. Il boit, il s'échappe dans la boisson. Ce qu'on voit pas sur scène, parce que c'est très court.
Mais il faut comprendre, quoi.
Il faut, on peut très bien comprendre ça. Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi, ça doit être pour jouer un personnage comme celui-là, qui n'est pas un personnage positif pour le moins, qui n'est pas tout à fait négatif non plus, qui est très ambigu, qui est très ambivalent, qui est très humain, qui est faible aussi. Il doit y avoir quelque chose d'agréable d'aller chercher aussi en soi ce qu'il faut pour jouer ça.
C'est toujours, moi je trouve que rentrer dans un personnage ou se faire envahir par un personnage, c'est toujours très agréable.
Quel qu'il soit,
que ce soit chez Offenbach, ou que ce soit chez Janáček, chez Wagner, quel que soit le répertoire. Moi, c'est quelque chose qui me transporte et que j'ai envie de montrer.
Mais Schoenberg, c'est plus d'une pièce quand même. Hein. Les personnages sont moins ils sont pas fouillés particulièrement.
Ça dépend. On peut toujours. Il y a toujours des moyens de faire des petites digressions, d'aller montrer autre chose, d'amener quelque chose de soi, toujours bien sûr, mais aussi d'aller trouver dans un personnage quelque chose de plus touchant. C'est le cas d'un Ménélas, par exemple, qui peut ne pas être que ridicule dans La Belle Hélène. Il peut être touchant. Il peut être dans sa faiblesse, dans son désir de... Donc il y a toujours plein de chemins à explorer, quel que soit le répertoire.
On va vous écouter ici en mélodie, Éric Huchet, c'est dans Les Petites Fées Honnêtes Gnomes, tiens, de Charles Bord.
Sous vos longues chevelures, petites fées, vous chantâtes sous mon sommeil, bien doucement. Sous vos longues chevelures, petites fées, dans la forêt du charme et de l'enchantement. Dans la forêt du charme et des merveilles rites, gnome compatissant, de votre main, honnête gnome, vous m'offrite un sceptre d'or. Hélas, pendant que je dormais, j'ai su depuis ce temps que ces mirages et
vraiment ni sans charme ni sans grandeur, hein, ce qu'on entendait là, de Charles Bord, de Petite Fée Honnête Gnome. Je ne me lasse pas de ce titre quand même. Éric Huchet qui chantait ici avec François-René Duchâble au piano. Éric qui me racontait à l'instant, bah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Charles Bord était le créateur de la
Scola Cantorum.
Bah quand même, oui. Ah oui. Donc un titre-là important.
Et surtout un grand redécouvreur de tout ce qui était la musique baroque française, Rameau, etc. C'est un des personnages qui a pas fait beaucoup de musique, mais qui a relevé toute la musique baroque française et qui a remis au goût du jour Rameau, Gluck, etc.
Qui du coup a apporté beaucoup de choses à la musique, personnage important dans l'histoire de ces personnages qui en plus ont écrit de la musique. Voilà, c'était l'occasion de leur découvrir ces disques-là. Le comique Éric Huchet, c'est vrai qu'on avait parlé tout à l'heure d'Offenbach, on aurait pu en évoquer d'autres aussi. Vous en êtes fait pas une spécialité, mais quand même sur l'opéra français un peu léger, c'est lié à votre voix, c'est lié à votre caractère.
Il faut le demander à ceux qui m'engagent.
Ah oui.
Je pense que c'est un petit peu des deux.
Ouais. Moi, c'est vrai aussi quand on est profilé dans un type de rôle, c'est vrai que
c'est difficile de s'en sortir. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que c'est fabuleux de pouvoir faire ce type de rôle de Tyrone qui sort un petit peu, qui malgré tout toujours un caractère quelque part, mais qui sort un petit peu de ce répertoire Offenbach.
Ouais.
Mais comme d'autres personnages, même chez Wagner, j'ai chanté du Wagner, du Strauss, d'autres choses. Britten, on parlait de Britten tout à l'heure. Le Tour des Crous, c'est des personnages fabuleux à faire. Ouais. Donc, c'est vrai que d'avoir fait de la musique légère, de la musique à texte, de la musique avec du texte parlé, ça aide énormément pour se libérer de certaines choses dans la musique, justement.
Ça donne une approche qui est l'approche en fait du texte.
Du texte. Tout à fait primordial.
Et bien important, on l'a dit tout à l'heure, pour Jelinek Hájek, par exemple, qui aussi part toujours de la langue parlée.
Complètement. Et là, spécifiquement, dans une œuvre comme Katia Kabanova, où vraiment, on sent que il n'y a pas de mots perdus, il n'y a pas de moments perdus dans l'expressivité, tout est là, tout est dit, c'est directement, il n'y a pas de fioriture.
Puis c'est une œuvre psychologiquement, c'est supérieurement intelligent, en plus, Katia Kabanova.
Chaque personnage est vraiment très fouillé, même les personnages, entre guillemets, secondaires. Je dirais que de toute façon, dans l'opéra, il y a vraiment Katia et les personnages qui tournent autour. Mais chaque personnage est ciselé vraiment d'un point de vue musical, d'un point de vue texte, que ce soit les jeunes amoureux, la sœur de Tyrone, Varvara, et son amoureux, le maître d'école, physicien, les paysans, vraiment. Tout est ciselé par la musique et par le texte. C'est vraiment très important.
Même la mère, qui est un personnage glaçant, mais fascinant en même temps.
Fascinant, tout à fait. Ça fait partie de ces personnages qu'on trouve récurrents aussi chez Janáček.
Ouais. Mais qui a ici une sorte de profondeur quasi psychanalytique,
On sent que Freud était.
C'est ça, on n'est pas loin.
C'est pas loin. Toutes ces opéras sont basées aussi là-dessus, sur ces études de personnages. Complètement.
Katia Krier, vous qui maintenant vous contentez pas du piano, mais allez sur les planches pour jouer la comédie, vous voyez, l'opéra, ça vous attire, vous aimez ça, vous le connaissez bien?
Pas tellement. En fait, pendant assez longtemps, je n'aimais pas trop le chant
parce que
ma mère était accompagnatrice d'une classe de chant.
Ah oui?
Et en tant que petite fille, je venais du ballet et je devais attendre pendant 1h30, 2h qu'elle me. que je puisse rentrer avec
c'est pas
elle.
C'est contre le chant, c'est contre l'attente.
Voilà.
Fait.
Et donc, j'ai pris assez longtemps pour aimer le chant, mais depuis, j'ai fait mon deuil de mon attente en tant que petite fille. Mais c'est assez fascinant, l'opéra, parce que c'est un art entier, il y a tout. Et donc, oui. Et
vous venez du ballet, cours de danse, c'est ça?
Oui.
Vous avez fait longtemps, ça, la danse?
Oui, beaucoup, oui.
Ah
oui?
Oui. Donc. Parallèlement au piano?
Oui, parallèlement au piano, assez longtemps, j'avais tous les jours de la danse classique et le piano, et à un moment donné, mes parents m'ont dit, bon, maintenant tu fais soit l'un, soit l'autre.
Voilà. Ah, c'est eux qui vous ont dit, faut choisir?
Oui.
Pourquoi ils se sont permis ce...
Parce que
d'ordre combinatoire.
Non, c'était pas méchant, mais à un moment donné, si on veut être bon dans une chose, il faut le faire vraiment bien. Et j'avais fait tous les examens que je pouvais faire au conservatoire de Luxembourg en piano et en danse aussi, donc il fallait choisir à un moment donné quoi faire. Ouais. Et donc je voulais pas devenir danseuse.
Voilà. Voilà, c'est un luxe, ça, quand même, quand on a deux cordes à son arc, bien comme ça. Bravo, hein. Non, c'est pas rien, hein. Éric, pardon.
Mais pour revenir sur l'opéra, il y a une chose, on peut se demander, le chant, mais pourquoi on chante? Et pourquoi on chante? Et là, je trouve qu'avec Janáček, c'est vraiment ça. On chante. Et surtout Janáček, parce qu'on n'a pas d'autre possibilité de s'exprimer que par le chant. Et là, avec Janáček, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, si on chante, c'est parce qu'on a besoin de crier et qu'on a besoin de le crier à peu près harmoniquement. Et qu'il n'y a pas d'autre possibilité.
Et là, l'opéra est justifié complètement.
L'opéra est justifié complètement.
Ouais. Et on va vous retrouver une dernière fois dans la musique d'Offenbach, Éric Huchet.
Sans aimer, peut-on vivre sans manger? Un destin cruel me livre à ce terrible danger. Oh, vraiment, c'est grand dommage, je ne sais dans mon malheur si je souffre davantage de l'estomac ou du cœur. Hélas! Hélas, oh, nul ne vient, hélas, on ne répond pas. Faut-il donc que je renonce à la cuisine?
Il n'est pas de promenade qui pour moi soit sans frayeur, et je crains quelque embuscade de mes nombreux fournisseurs. Si leurs troupes ne m'arrêtent, si j'échappe à ces truands de ma verve de poète, ils arrêtent les élans. Hélas, hélas, oh, nul ne vient, hélas, on ne répond pas. Faut-il donc que je renonce à la cuisine, aux amours?
La romance de Roland, extrait des Bavards d'Offenbach, chanté par Éric Huchet avec l'orchestre Padeloup, sous la direction de Jean-Christophe Keck. Vous me rappeliez juste à l'instant, Éric, que ça va être l'année Offenbach, l'année prochaine, hein?
2019, oui, le bicentenaire de la naissance d'Offenbach, avec beaucoup de projets en France et partout, j'imagine, et beaucoup des projets dans lesquels j'ai des choses à faire.
Donc,
je retrouverai avec des œuvres, quelques œuvres rares. Monté, enregistré, donc je ne peux pas en dire plus, bien sûr. C'est la saison prochaine, mais on vous saura ça.
Il y aura plein d'Offenbach en 2019. Un marathon de la mélodie, ce sera la salle Cortot le 3 mars, c'est bien ça.
Le 4 mars, avec
François Leroux, et puis je rappelle plein de gens. Et puis je rappelle enfin donc cette Katia Kabanova de Léo Sianacek, nouvelle production à l'Opéra de Lorraine à Nancy. C'est visible à partir de dimanche, et pour 5 représentations jusqu'au 6 février. Merci à tous les deux d'être venus me voir ce soir.
Merci.
Merci.
Le Classic Club, c'était ce soir avec Maud Nourry, Flora Sternadel, Antoine Courtin, Benjamin Perru et Sébastien Huel.
Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant.
Je vous retrouve demain, vendredi. Vendredi, c'est Club des Critiques Immanquables. Nous parlerons de Wagner en disque et de Kaya Sarriao.
J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
La semaine dernière, je lui avais fait une allusion idiote en pensant qu'elle était en direct et qu'elle me répondrait. Mais non, elle était enregistrée ce soir.
Oh, raté. Bonsoir Lionel, désolé, hein, c'est pas de ma faute.
Je m'étais planté de date.
Allez, à demain au Bedford. Bonne fin de soirée.
À réécouter sur francemusique.fr.